vivre mieux en consommant moins. Mais attention, pour lui, frugalité n'est pas sobriété, car le bonheur ne se chiffre pas, je mets des guillemets, ce sont ses mots, par frugal. Notre prochain intervenant entend une relation heureuse à la terre et donc aussi aux fruits, du mieux-être naturel et surtout ajusté à chaque territoire. Ça résonne avec ce qu'on a pu se dire ce matin. Faut-il construire ? Voilà quelle devrait être, selon lui, la question fondamentale à se poser avant même d'envisager un projet. Pionnier dans cette réflexion, l'architecte urbaniste Philippe Madec en veut aujourd'hui aux bâtisseurs. Et il utilise l'énergie de cette colère pour convaincre partout de la nécessité d'une frugalité osée et créative. Il en a même fait un manifeste, devenu un mouvement international, la révolution du ménagement, ou comment agir vraiment maintenant, c'est avec Philippe Madec.
Bonjour, merci pour cette présentation et merci de m'avoir accueilli avec vous pour ces 30 ans d'un mouvement que je découvre avec joie et dont je vois la vitalité depuis ce matin. Alors oui, on va parler de frugalité, on va parler de l'état actuel de notre planète et de nos activités de bâtisseurs. J'utilise très volontiers le mot bâtisseur puisque ça nous met tous dans la même histoire. Les bâtisseurs, ce sont les promoteurs, les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'ouvrage publics-privés. Et notre action est une action dont il faut savoir aujourd'hui regarder l'impact pour peut-être en accepter la responsabilité. Bon, ce tableau vous est connu. Très rapidement, ce que ça signifie, c'est que toutes les décennies sont plus chaudes que les décennies précédentes. Ensemble, depuis le début du XXe siècle, nous avons vécu les 20 années les plus chaudes depuis le début des relevés, c'est-à-dire depuis les années 1850. Les 30 dernières années, la somme des dégâts que la langue américaine et anglaise est capable de dire « unnatural disasters », c'est-à-dire des catastrophes qui ne sont pas naturelles, puisque nous en sommes à l'origine, le montant de ces dégâts est considérable, et on le sait bien, et vous l'avez dit ce matin aussi, les dégâts hydrométéorologiques sont les plus importants aujourd'hui. Et le nombre des décès grandit, et vous savez que chaque canicule en France a son lot malheureux de décès. Il n'y a pas de vaccin contre la pollution, et pourtant la pollution tue plus que tout autre désastre sur Terre. Le niveau de la mer monte, et le GIEC international, dans un de ses derniers rapports, peut-être même son dernier rapport, disait que l'élévation du niveau de la mer n'est pas une hypothèse, c'est un fait, et qu'il nous faut aujourd'hui agir avec cette donnée de telle façon de prendre des décisions qui ménagent tout le monde, à la fois les familles, les sociétés, tous ceux qui sont concernés par cette relation à la nature et ici à la mer. En fait, le rôle des bâtisseurs est resté beaucoup trop longtemps sous le radar de la critique environnementale. Il faut attendre finalement un premier rapport de l'ONU en 2018 pour que l'on connaisse l'impact de nos actions, et on le voit même, le GIEC commence à dire qu'il y a quelque chose à faire avec les bâtisseurs pour réduire l'impact du dérèglement. Enfin, vous le savez bien, je ne veux pas vivre en Inde aujourd'hui, hein. Je ne veux pas être sous les 50 degrés qu'ils reconnaissent, ni sous certains 40 degrés. J'ai construit un bâtiment à Vérargues, près de Montpellier, Vérargues, 46 degrés, et c'est chez nous en France, hein. C'est le pic des températures en France. Alors, nous sommes passés sous le radar de cette critique environnementale et il y a une Américaine en 2018, apprenant les chiffres que l'ONU avait proclamés, qui a dit cette phrase que je trouve d'une puissance infinie, c'est « Je ne suis pas un cadre d'une entreprise aéronautique, je ne suis pas cadre d'une entreprise pétrolière, je participe à une industrie qui détruit la planète, je suis architecte. » Elle aurait pu dire « Je suis promoteur. » Et notre situation est terrible parce que, on le sait bien, les guerres contemporaines sont toutes liées à la maîtrise des ressources naturelles. Et Dieu sait si nous utilisons, nous, des ressources d'origine naturelle non renouvelables. On sait qu'en 6 mois, on les utilise. Enfin, en France, c'est 6 mois. Au Luxembourg, qui n'a quasiment pas de biocapacité, c'est au mois de janvier. Hein. Mais grosso modo, au niveau mondial, on va dire, en juillet, c'est terminé. Cette photo qui a été prise en 2003 en Irak montre un soldat américain qui regarde des puits de pétrole qui brûlent. Et depuis 2003, je l'utilise dans toutes mes conférences. Et depuis 2003, je disais cette phrase que grosso modo, le public disait, enfin, pensait, cet architecte, ce serait bien qu'il nous parle d'autre chose que de Poutine. Mais depuis 2003, je disais chaque fois, plusieurs fois par mois, si nous avions des architectures qui consomment moins d'énergie, qui sont passives ou qui sont productrices de leur propre énergie, nous dépendrions moins du gaz de Poutine. Ça faisait sourire, ça ne fait plus du tout sourire. Et je pense vraiment que le fait que nous ayons loupé les enjeux de la loi Grenelle 1, hein, puisque vous savez, en 2020, nous aurions dû avoir tous nos permis de construire qui étaient BEPOS. On en est sacrément loin, quoi. Donc voilà, nous sommes responsables de tout ça. Parce qu'en fait, même quand nous achetons un parpaing, nous avons une action géopolitique. Tout ce que nous faisons, compte tenu du nombre et de l'importance de ce que nous faisons les uns et les autres, tout ça renvoie à un aspect géopolitique. Voilà, on en a eu conscience, on en avait conscience avant, mais on en a eu marre il y a 4 ans avec Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel. Dominique, architecte auteur, Alain Bornarel, ingénieur, le fondateur du groupe environnemental Tribu. Nous avons lancé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative pour dire stop à ça, pour dire stop à l'héritage du modernisme, stop à l'impact de la voiture pour l'aménagement du territoire, stop à l'industrialisation du bâtiment et stop à une utilisation déraisonnée de la technologie. Nous avons choisi la notion de frugalité heureuse et créative et non pas de sobriété. Nos amis de Negawatt utilisent la notion de sobriété énergétique et à raison. Nos amis des Colibris parlent de sobriété heureuse. Mais il nous semblait que la sobriété n'était pas un projet d'avenir. La sobriété est une exigence. C'est une injonction contemporaine. Il faut être sobre. Mais cette injonction-là ne fabrique pas un projet d'avenir, ne nous engage pas finalement vers quelque chose de plus heureux vis-à-vis de la planète et de nous-mêmes. Et nous avons choisi la notion de frugalité parce que frugalité vient du latin qui veut dire le fruit. Frux, frugis, frugem, ça veut dire le fruit. Frugal, c'est la récolte du fruit. Et la récolte du fruit est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Il nous semble beaucoup plus intéressant de nous engager dans une récolte, c'est dans quelque chose qui est positif, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'avenir, plutôt que de regarder ce qui était avant et de se dire il faut qu'on soit plus sobre qu'avant, il faut qu'on émette moins de carbone qu'avant. On le sait, il faut le faire, mais ça ne fabrique pas un projet d'avenir, un récit d'avenir indispensable. Bon, je n'étais évidemment pas un des fondateurs du Club de Rome, mais aujourd'hui je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome et j'ai relu un certain nombre de leurs rapports, notamment Facteur 4, qui est un rapport de 1997. Les années 95-99, c'est grosso modo l'émergence de d'Effinergy, de Braham, de Lead, de BBC, enfin de HQ, etc. En fait, tous les labels liés au bâtiment apparaissent dans cette fin du 20e siècle. On a un peu oublié ça quand même aujourd'hui. Le facteur 4 qui est sorti, donc qui est un des rapports du Club de Rome, c'est le premier qui parle de la question du bâtiment et de l'aménagement du territoire. Et le sous-titre de ce livre me semble être le seul projet d'avenir qui vaille. Le sous-titre, vous voyez, c'est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Si vous avez un autre projet, il faut le dire maintenant, hein. L'Europe, qui reprend la notion de facteur 4, dit quoi ? Facteur 4, ben oui, réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 sur la base de 1990. Vous voyez à quel point tout ça n'est pas un récit d'avenir, c'est juste un tableur qui est en jeu, la sobriété de cet ordre-là. Donc moi, je l'ai résumé avec cette notion de mieux avec moins, faisons mieux avec moins. Depuis que le manifeste est apparu, il a reçu, on arrive à nos 15 000 signataires, évidemment de partout en France, et vous voyez, plus les couleurs sont sombres, plus ces régions signent, et vous voyez que le Grand Ouest est un pays de signataires, et voilà, je suis avec vous en Loire-Atlantique, et vous voyez à quel point tout ça, et voilà, merci beaucoup à la Loire-Atlantique. Donc c'est vrai partout en France, sur tous nos territoires, y compris les territoires ultramarins. Et la répartition se joue comme ça aujourd'hui. Donc 15 000 signataires, 37% architectes. Donc vous voyez, il y a plus de 5 400 architectes qui ont signé. Il y a quelques maîtres d'ouvrage, il y a très peu d'élus. C'est pas 0%, hein, c'est 0,4%. Évidemment, des architectes, des urbanistes, des aménageurs, des artisans et 25% de la société civile qui nous dit « vous avez raison de prendre cette position de frugalité ». C'est-à-dire frugalité, c'est frugalité en termes de territoire, utiliser moins de territoire, frugalité en termes de technologie, utiliser moins de technologie, en termes d'énergie, la sobriété dont j'ai déjà parlé aussi, et évidemment en termes de matière, arrêter d'utiliser du béton. Je vais en parler. Bien sûr, il y a 15 000 signataires aujourd'hui, mais c'est plus que ça, puisque les organismes qui sont là sont les organismes qui ont signé. Et le dernier à avoir signé, c'est l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, qui reconnaît finalement dans une relation à la ressource locale, une relation à l'histoire, une relation aux artisans, quelque chose qui renvoie finalement à notre manière de regarder l'acte de construire. Donc le Conseil national, tous les syndicats sont présents, etc., etc., car le PUCA... Et d'autres sont là. Le manifeste et le mouvement est devenu international. Il est aujourd'hui, les signataires viennent de 90 pays, et il y a des groupes qui ont été créés dans des pays, et notamment des groupes qui ont dû traduire dans leur langue le manifeste. En fait, toutes les langues issues de germano-latine, comme on dit, ont tout le mot frugalité traduit, frugality, frugalidad, frugalita, tout ça existe. Mais quand vous traduisez en chinois classique ou en turc ou en vietnamien, il n'y a pas la traduction. Et en fait, la traduction qui a été choisie par ceux, ou en tout cas le sens qui a été retenu par ceux qui ont fait ces traductions-là, ils sont revenus à la question de la récolte. Et la récolte, eh bien, il faut qu'elle soit abondante, autrement il n'y a pas de récolte. Donc ils ont gardé la notion de la juste récolte. Et cette notion positive fait qu'aujourd'hui, vous avez un groupe qui est au Maroc, par exemple, un groupe qui est actif au Maroc, dans un pays où on ne peut pas parler de décroissance, vous imaginez bien, ce serait indécent de parler de décroissance au Maroc, mais ils ont reconnu dans cette idée de la juste récolte, d'une relation à la terre, la possibilité, en tout cas, de former les jeunes bâtisseurs à une autre pratique à venir. Voilà, les signataires viennent d'un peu partout en Europe, pas de Russie, mais qui n'est pas en Europe. Et puis d'un peu partout dans le monde. Le travail que nous faisons est un travail évidemment d'abord sur les idées, et d'une certaine manière, je pense qu'on a gagné la bataille des idées. Aujourd'hui, on le verra par la suite, il y a un certain nombre de notions qui ne sont plus du tout discutées, qui sont là comme des vérités acquises. Pour les élections municipales, nous avons fait ce petit document de 3 objectifs et de 15 engagements. Et le premier objectif, c'est préserver le sol comme notre terre. Et le premier engagement, c'est privilégier la réhabilitation de l'existant avant d'engager toute construction neuve. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Toutes ces choses-là sont téléchargeables. Et puis j'imagine que ce PowerPoint, vous allez pouvoir le diffuser à ceux qui le souhaiteront par la suite. Anticiper les dérèglements climatiques. La plupart des architectures, des bâtiments qui sont construits comme au XXe siècle, sont obsolètes. Et quand vous les livrez, que vous les vendez là, vous vendez des produits qui sont obsolètes, qui ne sont pas du tout prêts au dérèglement climatique tel qu'il se joue aujourd'hui et tel que nous le connaissons. Donc anticiper les dérèglements, préparer ce qui est là maintenant, est absolument indispensable. Et donc on disait que écrire le récit de l'avenir doit rentrer absolument dans tous les textes notamment liés à l'aménagement du territoire. Nous avons récemment fait, à la demande de Cyril Dion, un livre qui s'appelle « Commune frugale, la révolution du ménagement ». Parce que finalement, ce que nous proposons, c'est de regarder nos actions dans le sens d'un ménagement des lieux, ménagement de ce qui est déjà là. On vous a déjà parlé du déjà là, mais un ménagement à la fois de l'humain déjà là et du physique déjà là. Par exemple, si au lieu de travailler dans une ZAC, vous travaillez dans une zone de ménagement concerté, ça changerait, non ? Juste de ne pas dire zone d'aménagement concertée, mais zone de ménagement concertée. Et en fait, tout est de cet ordre-là, une posture vis-à-vis du travail qui est à mener. Donc cet ouvrage explique qu'il ne faut plus administrer, mais qu'il faut s'engager, qu'il ne faut plus consommer, mais qu'il faut contenter, qu'il ne faut plus construire, mais qu'il faut réhabiliter. Point d'interrogation, on reviendra sur ça si vous le souhaitez. Et qu'il ne faut plus aménager et qu'il faut ménager. Aujourd'hui, quand je dis qu'on a gagné la bataille des idées, il y a moins d'un mois, le Moniteur faisait 8 pages sur la frugalité. Et il parlait de la jeune génération d'architectes qui utilisent la frugalité d'une façon très simple et naturelle. Et aujourd'hui, quand on montre une déconstruction comme celle que vous voyez là, eh bien, la réaction est négative. Personne ne comprend plus que l'on détruise finalement ce type de bâtiment. Et puis Le Monde, voilà, Le Monde fait une série de 6 articles sur la question de la sobriété. Et le tout dernier concerne le logement, sur la nécessité de voir différemment le logement, où est-il, quel est-il, comment doit-il évoluer, avec cette idée que, vous savez, on ne construit chaque année que 1% de l'équivalent du bâti existant. Quelle est la partie éco-responsable dans ce 1%? C'est-à-dire, quelle est la partie qui va permettre de résoudre, de réduire l'impact de 40% des émissions de gaz à effet de serre? Moi, je ne dirais pas grand-chose. Donc, on sait bien, ce n'est pas avec le neuf qu'on va régler notre histoire et qu'on va réduire l'impact des bâtisseurs. Et donc, vous voyez, Bouygues Construction prévoit d'ici à 2050 de consacrer 95% de son activité à la rénovation contre 5 à 10% aujourd'hui. D'une certaine manière, ça demande aussi de revoir finalement les activités de tout le monde avant que Bouygues n'agisse. Et la réalité de ce changement des idées, ben voilà, l'ADEME a produit 4 scénarios, et le scénario numéro 1, c'est la génération frugale. C'est celui que je vous décris depuis tout à l'heure. Alors, on a gagné sans doute la bataille des idées, mais pas celle du terrain. C'est aussi pour ça que ces moments d'échange sont des moments d'échange importants pour ma part. On n'a pas gagné la bataille du terrain parce qu'on sait faire différemment depuis longtemps. Bon, il y a eu quelques pionniers qui faisaient différemment, mais il y a plus que des pionniers. Il y a aujourd'hui un groupe important de gens qui font différemment. Il y a une exposition en ce moment qui tourne, qui est 10 ans d'architecture frugale, qui est liée au offre du développement durable. Vous savez bien qu'il faut 5 ans avant qu'un bâtiment puisse être livré et montré à un prix. Donc, ça veut dire que depuis 15 ans, il y a une quantité impressionnante de projets qui se font autrement. Ce n'est plus de l'utopie. La preuve, on le fait depuis longtemps. Faire autrement, on sait le faire. Il faut juste avoir envie de le faire. Donc, pour le faire, nous vous faisons un travail de recensement des données, à la fois physiques et matérielles, sur toutes les ressources qui permettent de construire de manière frugale. Et puis, la réalité du terrain prend sa place. Les troisièmes rencontres de la frugalité heureuse et créative avaient lieu le week-end dernier à Bordeaux, et vous avez sur scène avec Dominique Gauzin-Muller et moi-même Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et en bas c'est Bernard Blanc, le maire adjoint chargé de l'urbanisme résilient de Bordeaux. Alors pourquoi ils sont là? Parce que ils ont mis en place le label bâtiment frugal bordelais. Est-ce que vous connaissez le label bâtiment frugal bordelais? Voilà pourquoi c'est bien aussi que ces échanges-là aient lieu. Donc, le label bâtiment frugal bordelais, c'est un label qui va s'imposer à tous les permis de construire et de réhabilitation en logement, en bureau, à Bordeaux. Ce label a été mené par Bernard Blanc, avec bien sûr l'appui du maire, et en association avec les promoteurs. Vous avez sur la photo, à côté du maire, Pierre Vital, qui est le président de la fédération des promoteurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc le travail a été fait en permanence. L'avancée de ce label a été testée dans les projets des promoteurs de telle manière que l'on voit finalement l'impact sur leur production et que l'on voit ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, ce label existe, ce label est à l'œuvre, qui montre qu'il est possible de s'entendre face à des demandes et des attentes d'une municipalité. Donc Pierre Urmic est le maire écologiste de Bordeaux, et des promoteurs qui ne sont pas forcément d'emblée, mais qui ont compris qu'il est absolument indispensable de faire en sorte que les choses évoluent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces choses-là? Mais je ne vais pas tout vous illustrer, mais tout est simple. Il faut juste avoir envie de le faire. Bon, par exemple, ici, dans ce projet qui est à Val-de-Reuil, on a un site qui est inondable au bord de l'Eure. On ne dit pas à l'eau, tu ne viendras pas. Hein. On ne lui dit jamais, tu ne viendras pas. Hein. Elle va venir. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, elle va monter. Hein. Et on l'a vu, moi j'habite en Belgique, j'étais là au moment des grandes inondations qui ont isolé Liège du reste du territoire. Donc on laisse l'eau venir, on fait un projet qui accepte que l'eau arrive, avec des bras de dérivation, avec toutes ces choses-là, et quand l'eau arrive, elle est en place. Elle occupe toute la place qui lui est donnée, y compris au plus proche des logements, et quand elle n'est plus là, mais le paysage est magnifique, puisqu'il a été nourri par l'eau, puisqu'il a été nourri par la possibilité de faire en sorte que la biodiversité trouve sa place. Et donc tous ces espaces-là sont des espaces qui sont donnés à la vie qui servent aussi aux espaces de jeu des enfants quand l'eau n'est pas là, mais même quand l'eau est là, je dois dire que ça fait des grosses flaques, quoi. Et les enfants jouent aussi là-dedans. Qu'est-ce que c'est que de travailler avec la nature? On accepte l'eau, mais on accepte le soleil aussi. Si tous vos logements ont 2 heures d'ensoleillement au 21 décembre, ils sont passifs sans effort. On est à Rouen, là. On est tout près, on est près d'Évreux. Ces logements-là, isolés par l'extérieur, solarisés comme il faut, même le plus petit jour de l'année, avec de l'inertie à l'intérieur, pour ceux qui habitent leur logement constamment, n'ont pas besoin de chauffage. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, les journalistes sont arrivés ici, parce que la crise des Gilets jaunes, c'est pas que l'essence, c'est le coût de la vie, simplement. Eh bien, dans ces logements-là, et tout le monde le sait à Val-de-Reuil, il n'est pas nécessaire d'utiliser son chauffage. Donc voilà, la solarisation est indispensable. Pour l'eau chaude, ben c'est une chaufferie bois collective. Et il y a une relation très forte entre le paysage et l'architecture pour maîtriser l'effet d'îlot de chaleur. Les voitures ne sont pas au cœur du projet. Mais la possibilité d'accéder chez soi dans des espaces apaisés et omniprésents. Le paysage est là, donc maîtrise l'effet d'îlot de chaleur, maîtrise aussi de l'élévation des eaux, puisque ce sont aussi des nous qui sont à cet endroit-là, et on les retrouve un peu partout. Une crèche est là, dans une lumière naturelle. Quand on sort, on n'est pas sur du bitume ou sur du béton, mais sur de l'enrobé. Sur le stabilisé. Et il y a une production agricole qui est là sur le site, qui est production horticole pour faire de la réinsertion sociale, mais aussi jardins familiaux, incroyables comestibles. Il y a une partie qui est donnée à la population. Et puis, voilà, on les voit ici. Et il y a des ânes qui sont présents pour le fonctionnement de cette activité agricole. Et quand les ânes ne sont pas utilisés pour l'agriculture, eh bien, ils servent à accompagner les enfants à l'école. Et donc le pédibus est devenu un asinobus. Et les parents n'ont pas intérêt à prendre la voiture quand les ânes ne sont pas là, parce que les enfants adorent faire le chemin de l'âne. Alors, je vous ai montré ce projet parce que pour arriver... En fait, au seul enjeu majeur qui est celui d'un équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique d'un projet, il faut tout ça. Il faut jouer sur à la fois la qualité du logement, sur la maîtrise du déplacement, sur la production agricole, etc., etc., ou une production non agricole. Et donc avec ce projet-là, on est arrivé au 2,9 équivalents hectares, qui est l'empreinte écologique que la France peut accepter, alors que la France est à 5,3 équivalents hectares. Donc on pourrait se dire, ben c'est bon, quoi, on sait faire, faisons ça, on sait faire, on est peinard. Ben non, parce que quand on fait ça, on dévalorise tout le reste. À Val-de-Reuil, tout le monde sait la qualité de vie qu'il y a dans cet écoquartier. Et donc le hameau d'à côté, qui est un hameau de 1980 de Maison Phoenix, et je sais si on parle de Phoenix en ce moment, les gens qui habitent là étaient dans des logements encore plus dévalorisés. Et donc le maître d'ouvrage nous a demandé de réhabiliter le lotissement de Maison Phoenix. J'ai mis 10 ans pour faire l'éco-village des Noé à côté, grosso modo, on va dire 170 000 euros par logement, sans logement. Le hameau de Landel à côté, aussi à peu près 100 logements. On va le faire en 5-6 ans. Et ce n'est pas 170 000 euros, hein, c'est 85 000 euros par logement. Et bien sûr, on n'arrive pas au passif comme à côté, mais on rend une dignité, on rend un espace à vivre plus intéressant. Et donc voilà, ces logements, on les réhabilite aujourd'hui. Et réhabiliter, puisque c'est un des sujets de demain, voire le sujet d'aujourd'hui, réhabiliter, c'est facile. Moi, je pense que là où on est, là, il n'y a plus besoin de chauffer. Vraiment. Il ne faut surtout pas climatiser. Il y a une ligne qui, grosso modo, part du nord de Rouen, qui arrive un peu au-dessus de Lyon et qui descend sur les Alpes, où là, il faut s'interroger sur le chauffage. Mais ici, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est une réhabilitation d'un bâtiment de ferme dans le Finistère. Pas de chauffage, pas de ventilation, zéro ventilation. Mais je reviendrai sur ça. Que des matériaux biosourcés, que des matériaux locaux. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai dans le Finistère, c'est vrai dans le Béarn. Ici, c'est un bâtiment de ferme, c'est une maison de ferme qu'on a réhabilité. Là aussi, pas de système... Enfin bref, tout ce qui est habituellement utilisé dans nos projets, tout est biosourcé. Tout vient de circuits courts. La technologie est réduite. Et ici, par exemple, il n'y a pas donc de système de ventilation mécanique du tout dans le logement, ni de ventilation naturelle assistée contrôlée. Donc tout se fait par l'ouverture des menuiseries. Et c'est devenu un jeu entre le père et le fils de cette famille à qui c'est le mieux ventiler la maison. Comme quoi, il y a des usages simplement qui arrivent, et on parle de frugalité heureuse, mais eux ont une vie heureuse de la ventilation. Donc voilà quelques images de cette partie-là. Et ici, à Bordeaux, je réalise des logements collectifs de la même manière que ces logements individuels. Donc des logements collectifs sans système de ventilation mécanique, sans système de ventilation naturelle assistée contrôlée, rien. Donc santé publique, l'État nous donne son accord, le PUCA m'autorise et le CEREMA, Madame CEREMA va nous parler tout à l'heure, et le CEREMA va instrumenter ce projet-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est un projet d'architecte de faire ça, c'est pas juste un projet d'ingénieur qui dit là on va mettre moins de technique. C'est un projet d'architecte parce que ça consiste à mettre des fenêtres dans toutes les pièces. On arrête de faire des salles de bain sans fenêtres et des WC sans fenêtres. C'est un peu honteux. Le matin, deux placards au réveil, c'est insupportable, c'est lamentable. Donc on rend les gens heureux en mettant des fenêtres dans toutes les pièces, avec des logements qui sont tous traversants. Et ici, il y en a un qui a même quatre orientations, figurez-vous. Et les toilettes ont retrouvé des fenêtres, enfin des choses qu'on connaît tous par cœur depuis longtemps, mais que la VMC nous a fait oublier dans les années 80, au point de faire aujourd'hui des architectures nullissimes. Donc voilà, on arrive à le faire et on va le faire. Là, on est en train de faire les documents de consultation des entreprises. Donc, dans deux ans et demi, on se reparle. Si vous voulez, je vous explique comment ça marche. Et ce deux fois plus de bien-être, on peut le faire aussi autrement. Donc ici, c'est avec un promoteur qui s'appelle Redman. Je ne sais pas si Redman travaille dans votre région. Donc c'est un travail que l'on a fait sur Grenoble. Orientation est-ouest, ce qui n'était pas habituel. Deux espaces extérieurs qu'on utilise en fonction des heures du jour et de la nuit et des saisons. Deux espaces extérieurs, entièrement traversants, toujours des fenêtres dans les salles de bain, toujours des fenêtres dans les WC. Un mur de briques de terre compressées au milieu pour apporter de l'inertie, et donc une qualité de vie qui arrive, qui permet d'avoir finalement une coursive, mais qui dessert comme une cour urbaine pour les étages. Donc ça, c'est un espace extérieur, l'autre est de l'autre côté, et la BTC est présente ici. Le seul exemple qui va déroger à la question du logement, c'est celui-ci. Donc, l'activité de demain, en tout cas celle des architectes, c'est la réhabilitation du monde déjà là. Le monde est habité, donc cette réhabilitation du monde déjà là, on le fera toujours avec les gens. On ne va pas le faire sans les gens, on va le faire avec les gens. Et ici, je fais la médiathèque James Baldwin et la première maison des réfugiés de Paris en ce moment. Et ce bâtiment-là, que vous voyez en partie basse, c'est ici, voilà. C'est une ancienne école. Moi, je coule très peu de béton, vous avez dû le voir. Mais quand le béton est là et qu'on me le confie, je l'aime. Je n'ai pas envie de le détruire. Et donc, on utilise la ressource pour faire réapparaître la radicalité de la structure initiale, pour vider complètement le bâtiment et tout ça, le repartager. Et quand on commence à déconstruire, ça, ce ne sont pas des dalles de marbre de Carrare, mais c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a enlevé de ce bâtiment-là, et tout ça va être réutilisé sur le site, réemployé. Donc en fait, le bâtiment devient sa propre ressource. Et on le sait bien, la ville, c'est une mine. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais même ça, qui partout en ville, fait de la ville une mine. Et on vide et on ouvre simplement pour que l'air et la lumière puissent entrer dans ces bâtiments qui étaient étanches, opaques, et qui ne donnaient pas une qualité de vie réelle. Alors juste, puisqu'on est ici dans cette région, on va parler un peu d'Angers. On a gagné récemment avec ICO, Soclova et BNC ces logements aux Bretonnières à Angers, 81 logements, avec une importance du paysage. Vous avez bien compris, comme pour Val-de-Reuil, le paysage est très présent ici pour maîtriser cet effet d'îlot de chaleur. Et donc voilà quelques images qui montrent ça. Un gros travail sur la gestion de l'eau et en partie basse des logements qui n'ont pas été dessinés parce que ce sont des logements coopératifs, donc ils vont être dessinés avec les gens qui vont les acquérir. Donc voilà le plan masse. Et les maisons sont construites en structure mixte, du bois, du béton et des briques de terre compressées à l'intérieur pour apporter une inertie indispensable à la qualité de vie dans ces maisons-là pour demain. On le fait avec la terre du site. On le fait avec Brick Technique Concept, qui sont les premiers à avoir industrialisé la fabrication de la brique de terre compressée, du bloc de terre compressée. Et on invite les gens qui veulent dessiner leur logement avec nous et avoir cette brique de terre compressée dans leur logement de venir nous parler. Et ça, c'est le dernier projet que je vais vous montrer maintenant. Excusez-moi que je vois si j'ai terminé. En fait. Je ne sais plus. Ouais. Ça va être rapide.
On termine avec ce projet.
J'ai terminé avec ce projet qui est à la Martinique. Évidemment, les conditions sont différentes, mais en même temps, prenez-le comme un signal d'alarme. La commune du Prêcheur est la commune qui est la plus au nord, côté Caraïbes, de l'île. Cette commune a été assez souvent atteinte par le volcan, par les tremblements de terre, mais depuis peu, c'est l'élévation du niveau de la mer, les houles cycloniques et les tsunamis qui sont ici les risques majeurs. Et donc, on nous a demandé de travailler à déplacer la population. Et ce travail-là, c'est un travail qui ne se fait pas sans la population. Ce que je disais tout à l'heure à propos de réhabiliter le monde déjà là, ça se fait, le monde déjà est habité et ne peut pas se faire sans la population. Donc le travail est un travail sur le déni. Le déni collectif n'existe plus. On va dire que cette population-là, qui est tellement confrontée aux risques, et je ne vous ai pas dit tous les autres risques, comme les lares, hein, quand les falaises s'effondrent, cette population sait qu'elle est confrontée à la nécessité de se déplacer. Alors parfois, il reste du déni individuel, où on dit « oui, c'est plutôt pour mon voisin que pour moi ». Mais en tout cas, ils sont tous prêts, et ils ont fait ce travail-là avec nous. Ils sont, voilà, vous les voyez travailler tous ensemble à cette coproduction d'un projet. On a travaillé sur un plan guide de relocalisation des habitats. Il y a par exemple une femme qui habite à cet endroit-là, dans la partie du port, qui est très concernée par la montée des eaux, qui dit, vous savez, moi je dors toujours à la fenêtre ouverte, mais quand il y a une vague qui fait un autre bruit, je me réveille. Donc ils sont à ce point proche de la nature, à ce point proche du risque, qu'ils ont absolument conscience de tout ça. Et puis juste à côté, il y en a une autre ici, là, hop, pardon, qui nous dit, ah oui, mais moi je veux bien aussi me déplacer, mais avec ma voisine. Parce que c'est une histoire de collectivité, c'est une histoire de vie tous ensemble. Et donc ce travail-là est en cours, c'est le PUCA qui porte ça, ce sont trois ministères qui portent ça. Et donc on y arrive petit à petit, avec une stratégie de relocalisation qui est très claire, qui est acceptée par tous. Enfin, ça demande un temps de présence, vous imaginez bien que c'est... S'il n'y a pas une confiance réciproque qui arrive à un moment donné, ça ne se passe pas. Et donc voilà, le déplacement s'opère. Et puis, il n'y a pas que le déplacement des maisons, il y a aussi les déplacements de risques. Il y a un quartier, qui est le quartier des logements sociaux, qui va devenir un quartier refuge. Et ça, c'est une question que les communes de littoral doivent se poser. Quel est le quartier refuge de leur commune ? Dans ce quartier refuge, on va installer une école refuge. C'est-à-dire une école qui est capable, bien sûr, d'accueillir les enfants qui vont quitter leur école qui est en bas dans une situation très périlleuse. Accueillir les enfants, mais accueillir 250 personnes pendant 15 jours en totale autonomie. En fait, ce type de programme qui n'existait pas au XXe siècle est un programme du XXIe siècle. Et un programme qu'il faut envisager. Je suis responsable de l'urbanisme de la ville de Saint-Paul à La Réunion, où on fait aussi travailler sur ça, parce que l'élévation du niveau de la mer à Saint-Paul, avec les houles australes, en fait, toutes ces choses-là sont extrêmement présentes. Et donc voilà, non pas le projet de l'école-refuge, mais la faisabilité architecturale que l'on en a fait. Et on a dessiné tous les logements des gens qui sont là. Ils n'avaient jamais vu leur logement dessiné. Vous imaginez bien, ce sont des architectures vernaculaires. Et en dessinant tous leurs logements, on est arrivé à trois typologies. La maison et son jardin, qui on va dire qui est la conception habituelle de la maison. La maison et ses voisins, je veux bien partir mais avec ma voisine. Et puis la maison en lanière, qui existait dans une autre situation. Sur cette base-là, on a lancé un concours, qui était un concours international, où on a demandé à des architectes de faire des propositions pour le renouvellement du logement aux prêcheurs, de telle manière que les logements qui se fassent soient capables d'affronter le tremblement de terre, les cyclones, enfin tout ce que vous connaissez comme l'avenir qui nous attend. Et donc voilà, ce travail-là a été fait, les réponses sont là. On commence à réaliser les quatre prototypes. Le concours de l'école refuge est parti et le prêcheur est entré dans le XXIe siècle.
Merci beaucoup, Philippe. On va rester ensemble. Vous avez certainement des questions, ou au moins des réactions. Beaucoup de choses, très riches. Donc, allez-y, on va prendre le temps de vous écouter pour partager avec Philippe Madec et puis ensuite accueillir nos intervenants. On a une question au premier rang de Christine. Juste là. Merci. Oh, on attend 2 secondes, c'est le temps que la régie... C'est bon ? Non, manifestement non. J'arrive.
Oui, j'avais une question pour vous. On a beaucoup vu d'habitats effectivement pas très denses, et c'est vrai qu'on n'a pas vu l'urbanisation très dense des grandes métropoles. Vous l'évoquez pas du tout. Donc c'était un peu pour avoir votre vision par rapport justement à ces grandes métropoles sur les sujets de verticalisation, de densification, qui sont des sujets qui sont très récurrents chez nous.
Enfin, l'exemple de Bordeaux est un exemple qui montre la densité de la métropole de Bordeaux, hein, qui est celui sans ventilation naturelle. En fait, pourquoi est-ce que je ne parle pas que de métropole ? Pourquoi est-ce que je ne parle pas que de métropole ? Parce que je ne crois pas du tout au fait que la France soit à 77,6% urbaine. Que ce mensonge de l'INSEE est fini, est terminé. La métropolisation de notre territoire, c'est une histoire de la fin du XXe siècle. La réalité aujourd'hui est un regard différent sur les territoires. Et tout ça est arrivé aussi par un changement de définition de l'urbain et du rural. Je vous le dis rapidement, mais ça peut vous servir. Bon, jusqu'à présent, on définissait l'urbain par opposition du rural. Et en France, c'est... l'urbain, c'est 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. 2000 habitants agglomérés. Vous comprenez que ça nous amène à cette statistique incroyable d'une France à 77,6% urbaine. Et qu'on déséquipe le territoire et qu'on métropolise, etc., etc. J'étais expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3 à Quito. Et à Quito, en 2016, l'OCDE, la Banque mondiale... la Commission européenne, la FAO et l'IAO ont décidé de retravailler sur la définition de l'urbain et du rural, en arrêtant cette opposition imbécile entre l'urbain et le rural, et en revenant à cette notion d'établissement humain. Les résultats sont absolument éblouissants, puisque tous les discours de l'ONU en 2016 commençaient par « puisque la population mondiale est à 54% urbaine et qu'elle sera à 70% urbaine, patati patata, enfin bref. » Et aujourd'hui, les chiffres n'ont rien à voir avec ça. Dans le travail intelligent qui a été fait par l'OCDE et ses partenaires, ils ont fait apparaître d'autres dimensions de l'établissement humain. Il n'y a plus seulement le rural et l'urbain. Il y a le semi-dense et le pas-dense du tout, qui est en fait une réalité de nos territoires et qui renvoie finalement aux villages, aux petites villes et même aux hameaux. Et donc les chiffres actuels, c'est la population mondiale est urbaine à 48%. Donc vous venez de sortir d'une terre urbaine. Hein. Et en France, on n'est plus à 77,6%, 5% urbain. L'urbain dense est à 37,9%, me semble-t-il. Le rural est à 33 et quelques. Et l'intermédiaire, c'est ce qui reste, donc c'est 36 ou 35. Voilà. Ce qui veut dire que la réalité du territoire, c'est cet intermédiaire qui donne finalement sa force et sa qualité au territoire. Et je pense que reconnaître qu'il y a une telle richesse du territoire, c'est une bonne manière de trouver les bons outils pour faire les bons projets aux bons endroits. Donc Bordeaux, c'était le dense. Le prêcheur, c'est le pas dense du tout, mais là, on est dans un village de pêcheurs et les Bretonnières à Angers, c'est Angers. Enfin, vous voyez, chaque fois, la réponse est spécifique au lieu. Il n'y a plus de réponse universelle, il n'y a plus de réponse générique, comme on dit, mais chaque fois, des réponses qui renvoient à la réalité des contextes. Et ça, c'est une des abondances frugales. La capacité à voir la richesse du monde tel qu'il est.
Merci beaucoup. Oui, Vous avez un micro, pas encore. On vient vers vous. Gardez la main peut-être encore un tout petit peu levée. Merci. Et n'hésitez pas à vous présenter. Merci.
Oui, bonjour Pierre Leroy, bravo. Juste une question, en fait, le temps de mise en œuvre de vos projets aujourd'hui, vous considérez qu'il est long, il est rapide, ce rapport au temps, et du coup le corollaire, c'est comment on massifie votre démarche?
Alors, pour moi, la massification ne passe pas par le travail des bâtisseurs, mais par l'enrôlement de la société civile et de notre accompagnement de la société civile. Enfin, on est tous pareils ici. On sait très bien qu'entre le moment où on a une commande, et je ne parle pas de votre travail avant pour faire en sorte que d'avoir le terrain et la possibilité. Enfin bref, entre le moment où vous donnez une commande à un architecte et le moment où il livre, ça dépend des contextes, mais 4 ans, 4, 5 ans, quoi. Donc on voit bien que ce n'est pas avec le neuf qu'on va s'en sortir, alors que la réhabilitation est beaucoup plus rapide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le hameau de Landelle et sur le hameau des Noé. Donc finalement, aujourd'hui, peut-être changer nos métiers, aller vers un accompagnement de la société civile au plus proche de ce qu'elle peut faire, c'est certainement la meilleure massification. Energy Spring, ça a peut-être un avenir, mais pas partout. Enfin, vous voyez, c'est alors que faire en sorte que qu'on accompagne les copropriétés en difficulté, par exemple, ça me semble être un vrai travail, quoi. Et qui est plus un travail, je veux dire, de votre côté, peut-être que du mien, même si techniquement je peux le faire. Donc, je dois dire, on fait des projets qui peuvent être des projets coup de poing. Le prêcheur, on l'a fait en moins d'un an, tout ce travail-là avec eux. Mais on est avec eux depuis et on ne les quitte pas. Et donc voilà, il y a des projets très rapides et puis il y a les autres qui prennent le temps pour le faire. Je ne vous ai pas tout raconté, mais quand on fait de la médiation citoyenne pour nos projets et que ça nous prend du temps de médiation citoyenne, ça nous fait gagner du temps au bout du compte. Sur un projet à Bordeaux, on a fait un bivouac, on s'est installé sur le site, on est allé voir tout le monde, pas eu un seul recours. Et donc l'argent de l'avocat qui était prévu dans le bilan, il est passé à la médiation. Il est passé à des choses positives plutôt qu'à du combat et de la lutte qui n'est jamais bonne pour tous, quoi. Donc en fait, c'est la question de l'argent, c'est celle du temps. C'est où est-ce qu'on met l'argent et où est-ce qu'on met le temps. Voilà.
Merci beaucoup pour la réponse et pour la question. On a encore le temps, si vous le souhaitez. Oui. Même règle du jeu. Si vous pouvez vous présenter, c'est top. Merci.
Oui, bonjour. Romain Vincent, Advenis Immobilier, Immobilier Entreprise. Ma question porte sur la ruralité justement et les campagnes. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous dites qu'on ne va pas forcément redévelopper, même après l'épisode du confinement, vers les campagnes. L'idée, c'est de restructurer les périphéries ou les villes existantes. Qu'est-ce que vous pensez des villes nouvelles qui ont été décidées par le général de Gaulle à l'époque, comme par exemple Saint-Quentin en Yvelines, qui n'avait aucun centre historique? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un succès? Et est-ce qu'on pourrait repenser la même chose? Merci.
Merci. En fait, il y a deux questions dans votre question. Je n'ai pas dit qu'il fallait plus développer le rural, parce que la réalité est très différente. Quand je suis très critique vis-à-vis de l'État, je dis de l'aménagement du territoire aujourd'hui, ce sont les agences immobilières et les notaires qui le font. Et je connais des bourgs du centre Finistère où vous n'avez plus rien à acheter. Et où les gens qui sont venus de l'urbain sont venus avec leur métier. Mais ils voulaient faire de la permaculture en plus de leur métier. Donc vous avez des avocats qui font de la permaculture, quoi. Ils continuent à être avocats. Mais il n'y a pas que les avocats qui sont sortis des villes. 86% des cadres franciliens voulaient quitter l'Île-de-France. Pourquoi ils sont tous arrivés chez vous, là? Hein, ils ont commencé par arriver à Bordeaux et maintenant ici. Maintenant, il n'y a quasiment plus de place ici. Ils vont à Laval. Enfin, vous connaissez tout ce mouvement-là. Donc aujourd'hui, tant qu'on ne fait rien et qu'on laisse finalement les agences immobilières et les notaires faire le boulot, on est face à quelque chose qui est là. Donc moi, je suis pour qu'on aide dans la réglementation le développement des hameaux, la réhabilitation des hameaux. C'est indispensable, quoi. Repartir de l'existant qui a déjà structuré le territoire et l'accompagner, mais parcelle à la parcelle, hein, pas commencer à faire des lotissements dans les hameaux. Enfin, on fait les choses avec beaucoup d'intelligence. Ça, oui, je suis pour ça. Après, pour les villes nouvelles, peut-être que vous ne le savez pas, mais Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle de France. Et c'était sans doute la seule ville nouvelle de France, puisque Val-de-Reuil, qui s'appelle le Vaudreuil avant, donc qui fait partie
de toutes ces villes lancées dans les années 60. Le Vaudreuil est la seule ville qui n'était pas greffée à un centre urbain. Donc celle-là, elle est venue de nulle part et elle est la première et la dernière, d'une certaine façon. On n'a rien, on n'est pas du tout dans la situation de ces années-là. Imaginez, on reconstruit la France et on repeuple la France. Et l'agriculture se transforme. Donc l'agriculture devient industrielle. Du coup, les paysans traditionnels, finalement, n'ont plus l'activité qu'ils avaient avant, remplacée par l'agriculture industrielle. Ils montent vers la ville où il y a du travail. Dans le même temps, la France se repeuple. Donc la question du logement dans ces années-là, vous imaginez pas, quoi. Donc la France se repeuple et puis l'Île-de-France se tertiarise. Et donc la fabrication des villes nouvelles, c'est la réponse à ces trois mouvements, quoi. Un, l'exode rural. Deux, l'augmentation de la population. Et trois, la nécessité de faire en sorte que l'activité tertiaire se retrouve située ailleurs. Alors, ça vaut pour l'Île-de-France, mais on voit bien, ça devait marcher pour Rouen, ça n'a pas marché. Ça devait marcher pour Lyon, ça a marché. Hein, c'est l'île d'Abo. Marseille, c'est j'ai oublié le nom, mais c'est le autour du... Hop, ça me reviendra, Marseille. En tout cas, il y en a une, etc. etc. Donc, on n'est pas du tout dans cette situation-là, aujourd'hui. L'augmentation de la population n'est pas du tout équivalente à ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc, voilà. Autre histoire, autre outil.
Ah, ça y est, c'est l'heure. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ça nous offre la transition. On va continuer.